Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
C'est en principe ce vendredi qu'aura lieu l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans une dizaine de provinces après le réaménagement du calendrier électoral par la CENI. Cette élection intervient après la déchéance des gouverneurs et vice-gouverneurs accusés pour la plupart de plusieurs faits. Un troisième cas confirmé d'Ebola vient d'être enregistré à Mbandaka. Il s'agit d'un contact à haut risque et du premier cas, un malade encore en vie et admis depuis hier au centre de traitement d'Ebola pour une prise en charge. L'invité de la rédaction est le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Kenge, dresse le bilan de l'action des autorités militaires à la tête de la province à l'occasion du premier anniversaire ce vendredi de l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est ce vendredi qu'aura lieu l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Cette date a été fixée après le réaménagement du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans quelques heures donc, une dizaine de provinces connaîtront les noms de leurs futurs dirigeants. Cette élection intervient après la déchéance des gouverneurs et vice-gouverneurs accusés pour la plupart d'incompétences notoires, de mégestion ainsi que de détournement de fonds par des députés provinciaux. Le point sur l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs avec vous Esther Ndalafina.
103 candidats sont en lice pour briguer ce vendredi le poste de gouverneur dans 12 provinces. Il s'agit des provinces du Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru, Maïndombe, Lomami, Olomami, Congo central, Otuwele, Maniema, Mongala, Tanganyika et Tchopo. Tandis que 5 candidats compétissent pour briguer le poste de vice-gouverneur dans les provinces de Kinshasa et de Kwango. Cette élection se déroule tout à l'heure dans les assemblées provinciales d'après la commission électorale nationale indépendante. Les nouveaux dirigeants qui seront bientôt élus remplacent ceux qui ont été déchus depuis plus d'une année par leurs assemblées provinciales qui les ont accusés de mégestion, d'incompétence notoire et de détournement des fonds publics. D'après le calendrier réaménagé de la CENI, tous les candidats ont été soumis à un exercice démocratique, celui de battre campagne auprès des électeurs qui sont les députés provinciaux. La campagne était prévue du 2 au 4 mai 2022.
La ville de Mbujimayi s'est réveillée dans le calme. Plusieurs parents ont annoncé ne pas vouloir envoyer les enfants à l'école, craignant des troubles éventuels à l'ordre public. Certains habitants disent de leur côté suivre les informations diffusées sur le média en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui va bientôt se dérouler à l'Assemblée provinciale. Des explications encore une fois avec vous Esther Ndalafina.
La police a annoncé aux habitants de rester à la maison et d'évacuer paisiblement à leur occupation. Le même message a été dupliqué par le maire adjoint de Mbujimayi. Cependant, un dispositif sécuritaire est très visible dans les périmètres de l'Assemblée provinciale pour empêcher les personnes non concernées par cette élection d'accéder dans la salle de la plénière. Les observateurs, les journalistes nationaux, internationaux et les témoins des candidats sont les seules catégories dont leur présence est acceptée à l'Assemblée provinciale par la CENI pour la transparence de cette élection. Certains parents que nous avons rencontrés ce matin ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école suite à l'agitation constatée sur la ville durant les 3 jours de campagne électorale. Pour sa part, la commission justice, paix et sauvegarde de la création à la présidence provinciale de l'église du Christ au Congo SCC Kasaï Oriental a appelé les candidats gouverneurs à l'acceptation des résultats de vote de ce vendredi 6 mai 2022. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombe, à Inongo, chef-lieu de la province, la situation est calme à la veille de ces élections, fait savoir le président de la société civile. Et le commissaire provincial de la police nationale congolaise s'est dit déjà préparé pour sécuriser ces élections, a indiqué le général Christian Paipai, commissaire provincial. Irène Boma pour plus d'explications.
À quelques heures de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ce 6 mai de la province de Maïndombe, l'ambiance est relativement calme à Inongo, chef-lieu de la province. Isidore Bolika, la présidente de la société civile de cette province qui le dit, fait savoir que la population attend impatiemment de connaître les noms des nouveaux acteurs à la tête de la province. Pour sa part, les coordonnateurs de l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADH en sigle, basé dans la cité de Nyoki en territoire de Koutou, pensent que l'avenir l'avenir et le développement de la province du Maïndombe se trouve pour le moment entre les mains des députés provinciaux qui sont appelés à faire un choix judiciaire suivant la volonté du peuple. Fidèle Lizorongo précise que le peuple veut un gouverneur rassembleur, sociable et qui saura gérer les grands conflits tribaux, fonciers et coutumiers qui déchirent les territoires dans le Maïndombe. Et du côté sécuritaire, le commissaire provincial de la police, le général Christian Paipai, a affirmé que toutes les dispositions sont déjà prises pour que ces élections se déroulent dans une atmosphère de paix. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province du Olomami. Avec vous, Jean Gandou, quelle est l'ambiance qui règne sur place?
C'est dans le calme que la population du Olomami, plus particulièrement celle de la ville de Kamina, chef-lieu de cette province, attend connaître le nom de son gouverneur. Même si la campagne électorale a pris officiellement fin mercredi dernier, nos sources rapportent que les discussions des salons se poursuivent, loin de l'Assemblée provinciale notamment, avec les candidats ou les membres de leurs états-majors. De son côté, le bureau de l'Assemblée provinciale échange avec les députés provinciaux pour les convaincre à prendre part à la séance plénière de ce vendredi, au cours de laquelle le vote du gouverneur sera organisé, car s'ils boycottent cette séance plénière à cause du non-paiement des arriérés de leurs émoluments, la province n'aura toujours pas de gouverneur élu et c'est plutôt l'actuel qui assure l'intérim qui va continuer à la gérer. Notons que sur les 6 candidats gouverneurs retenus par la CENI, un a désisté les jours de la campagne électorale et nous apprenons qu'un autre est sur ses traces. Tous évoquent les raisons de convenances personnelles. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
À quelques heures du vote du gouverneur et vice-gouverneur, le conseil provincial de la jeunesse du Maniema invite les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne et aux députés provinciaux de voter utile pour l'intérêt du Maniema. Angèle Rachidi, présidente provinciale du Conseil de la jeunesse, revient sur son appel. Elle est au micro de Florence Kizalunga.
Le vendredi 6 mai 2022, la province du Maniema, comme les autres provinces concernées par les élections de gouverneur et vice-gouverneur, connaîtra son nouveau gouverneur et vice-gouverneur qui présideront à sa destinée autour de 2 prochaines années. Et à cet effet, le Conseil provincial de la jeunesse du Maniema félicite le jeune du Maniema qui jusque-là ont fait preuve de la tolérance et de la culture démocratique, gage de la paix sociale, invitant le jeune au calme le jour des élections. Le Conseil provincial de la jeunesse invite le jeune à la prise de conscience, à ne pas céder à la manipulation politicienne, exhortant le jeune à la prise de conscience. Chers jeunes, restons à la maison, attendant les résultats finaux des urnes. Agissons responsables, réfléchissons, car l'avenir du Maniema est entre nos mains. Le Conseil provincial de la jeunesse recommande aux élus du peuple de voter utile, afin de doter les Maniémans de personnes dotées de leadership éclairé, capables d'inscrire la province sur le chemin du développement.
Notez que dans nos prochaines éditions, nous vous ferons encore vivre l'ambiance qui prévaut dans d'autres villes à quelques heures de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Tout à fait autre chose à présent, un troisième cas confirmé d'Ebola vient d'être enregistré en Mbandaka. Il s'agit d'un contact à haut risque du premier cas décédé le 22 avril dernier. Le troisième malade est vivant et admis depuis hier matin au centre de traitement d'Ebola où présentement il est pris en charge. C'est un homme de 48 ans qui réside sur l'avenue Bokilimba dans l'aire de santé Motema Pembe. Hier jeudi, les équipes de riposte de la DPS ont mené des opérations de décontamination et de vaccination dans le quartier afin de couper la chaîne de contamination. Le point avec Paul-Richard Malingela.
C'est jeudi en Bandaka, il y a une descente massive des équipes de riposte sur l'avenue Bokilimba. C'est dans l'aire de santé Motema Pembe, commune de Mbandaka, qui est le foyer de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola. Les agents de riposte appuyés par l'UNICEF ont d'abord organisé un ring autour du ménage du troisième cas. Ils ont procédé à la décontamination du foyer. Par la même occasion, ils ont aussi détruit et remplacé les matelas, fourni des intrants de lavage des mains, des bidons, du chlore et du savon. Les 20 ménages environnants ont également bénéficié des mêmes entrants comme mesure barrière, ainsi que les écoles, les formations sanitaires et les églises, identifiées dans un rayon de 500 mètres, en vue de couper la chaîne de transmission de cette fièvre hémorragique. Entre-temps, l'équipe du programme élargi de vaccination PEV, appuyée par l'OMS, a mené ce jeudi la vaccination des habitants du milieu. Cette stratégie de vaccination va se poursuivre, a indiqué l'OMS, d'autant plus que le nombre de cas contacts est passé aujourd'hui à plus de 400 personnes. La vaccination aidera aussi à identifier le plus rapidement possible d'autres personnes qui ont été en contact avec les 2 malades décédés ou encore avec celui actuellement pris en charge au CTE, a renchéri notre source Mbandaka, Paul Charmanengue, la Radio Okapi.
Mise au point sur la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola en Mbandaka, le docteur Muyembe Tamfoum rassure que grâce au vaccin et aux deux molécules trouvées, cette maladie peut être traitée. Il renseigne qu'à l'heure actuelle, les défis majeurs et la vaccination autour des cas détectés ainsi qu'au sein du personnel soignant. Il a dit mercredi dernier au cours d'un point de presse organisé par l'ambassadeur des États-Unis sous la campagne contre le coronavirus. Jean-Jacques Muyembe Tamfoum est au micro de Jean-Francis Mouya.
Ebola n'est plus cette maladie terrible qui nous effrayait parce que nous avons le vaccin et nous avons également deux molécules pour traiter les malades. Ceux qui présentent des symptômes, on peut les traiter et les guérir. Une des molécules, c'est notre molécule qu'on appelle Ebanga, que nous avons développée avec nos collègues de l'Institut NIH des États-Unis. Nous pensons que cette épidémie sera vite contrôlée si on détermine vraiment l'origine de cette maladie. Parce que on parle du premier cas qui était venu de Boindé. Alors nous savons pas est-ce qu'il a été infecté à Boindé ou bien il a été infecté vraiment à Mbandaka. Ça, c'est la question fondamentale. Et les épidémiologistes sont donc en train de travailler. La solution finale, c'est la vaccination autour des cas et vacciner aussi les personnels soignants.
En Ituri, début hier jeudi à Ariwara, dans la province d'Arou, des pourparlers entre le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kanchama, et son homologue du Haut-Touélé, Christophe Basséane Nanga. Au centre de leurs échanges décrispés, les relations tendues entre les populations de chefferie des Logo Lolia dans le Haut-Touélé et Kaliko Omi dans le territoire d'Arou. Un conflit des limites administratives qui avait dégénéré et causé la mort de cette personne en avril dernier. Retour sur les faits avec Martial Kizabiamungu.
Les populations de chefferie de Kaliko Omi en Ituri et celles de Logo Lolia dans les Haut-Ouélé vivaient jusqu'ici en parfaite harmonie. Le 17 avril dernier, elles étaient même encore réunies autour d'un verre d'amitié quand soudain, chacune de deux parties s'est mise à réclamer une portion de terre censée appartenir à son entité. Une discussion autour des limites administratives qui va vite dégénérer à une bagarre généralisée entre les deux villages voisins. Cette personne va y perdre la vie et puis de sa case être incendiée. À cela va s'ajouter un déplacement massif des populations. Assez pour que les deux exécutifs provinciaux se saisissent de l'affaire. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, au cours de cette rencontre interprovinciale qui a démarré jeudi et pour trois jours, les deux gouverneurs vont chercher une solution définitive aux problèmes qui divisent leurs administrés pour les retours de la paix et la cohabitation pacifique qui ont toujours prévalu dans ces deux entités. Bounia, Martial, Kizabiamongo, Radio Okapi.
En bref, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a radié le journaliste Péro Louara Claude et lui a retiré la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais. Cette décision est contenue dans un communiqué de presse publié hier jeudi à Kinshasa. Pour rappel, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Péro Louara a tenu des propos dégradants à l'endroit du chef de l'État. Entre-temps, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe a émis un mandat d'amener à son encontre.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire, des initiatives pour insérer les travailleurs handicapés dans un marché difficile. La Côte d'Ivoire compterait entre 500 000 et 900 000 les personnes en situation de handicap, selon les sources, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé. La grande majorité n'a plus d'emploi, car l'insertion des handicapés dans la société ivoirienne et dans le monde du travail en particulier reste très difficile. Mais la société civile veut changer cette réalité et mieux les insérer dans le marché du travail à partir de plusieurs initiatives. En Tunisie, des dizaines de journalistes ont manifesté hier jeudi à Tunis à l'appel de leurs syndicats et d'autres associations. Beaucoup dénoncent la régression de la liberté de la presse dans le pays qui lui a valu un déclassement de 21e place dans le classement annuel des Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse et d'expression en 2022. La Tunisie occupe désormais la 94e place sur les 180 pays.
L'invité.
L'invité de la rédaction et le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, dresse le bilan de l'action des autorités militaires à la tête de la province à l'occasion du premier anniversaire ce vendredi de l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le général Sylvain Ekenge s'entretient avec Martial Papi Moukeba.
Général Sylvain Ekenge, bonjour.
Bonjour, merci à Papi Moukeba.
Une année depuis l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu, comment vous évaluez l'action des autorités militaires à la tête de la province?
Il s'observe des avancées significatives et des résultats palpables dans les domaines de la sécurité, des opérations militaires et du développement de la province. Sur le plan sécuritaire, la police et les services de sécurité ont travaillé d'arrache-pied pour ramener le calme dans les grandes agglomérations ainsi que dans les trois villes de notre province. Sur le plan opérationnel, tous les sanctuaires des ADF, des groupes armés, sont aujourd'hui occupés par les FARDC. À Massis, par exemple, et dans les Walikale, les FARDC ont pratiquement nettoyé presque tous les deux territoires, et il fallait basculer dans les territoires de Nyiragongo pour combattre les FDLR et les autres groupes armés qui écument le parc national de Virunga. Malheureusement, il y a les M23 qui ont ressurgi, je ne sais de quelle manière. Dans le territoire de Lubero et de Beni, les FARDC ont travaillé. Aujourd'hui, nous sommes en opération conjointe avec le PDF, l'armée ougandaise, et les gros des ADF ont fui et ont migré vers l'Ituri. Et ici, dans les territoires de Beni, il reste quelques postes de résistance et on est en train de planifier les opérations pour s'en occuper.
Aujourd'hui, à quel pourcentage évaluez-vous la capacité des nuisances, d'abord des ADF dans les territoires de Beni et puis de la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru?
Nous sommes des militaires, la menace ne se quantifie pas. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui est que dans le secteur opérationnel Soukouraïn Grand Nord, il y a d'un côté les ADF qui opèrent aujourd'hui en petits groupes et qui s'attaquent aux villages isolés, aux gens qui vont dans les champs, et c'est là où ils massacrent les populations. Notre mission primordiale, c'est ramener la paix, quels que soient les niveaux et les degrés de nuisances. Même si ce degré est inférieur, nous devons ramener la paix et la paix totalement. Dans les territoires de Rutshuru, notre mission est de ramener la paix et on laissera aucun centimètre de notre territoire contrôlé par une quelconque rébellion.
Et quelle est la situation à Tchanzu, Runyoni?
Depuis un certain temps, à cause de concertation de Nairobi, il y a un cessez-le-feu qui a été décrété, mais ce cessez-le-feu a été violé par les M23, ce qui a nécessité la réaction des forces armées qui a récupéré certaines positions. Et aujourd'hui, on est en train de se préparer pour que tout soit remis dans l'ordre dans cette partie du territoire national.
Parlons développement. On a vu l'autorité militaire du Nord Kivu lancer les travaux de réhabilitation de certaines routes et la construction de quelques infrastructures au profit de l'administration au Nord Kivu. Mais certaines personnes ne cessent d'insister sur le fait que vous étiez beaucoup plus attendu sur le terrain des opérations contre les groupes armés, vous comme militaire.
Sans infrastructure, on ne peut pas mener les opérations. Sans route, on ne mènera jamais les opérations. Ces routes qu'il est en train de réhabiliter nous aide aussi dans les opérations, puisque ça facilite les interventions, les approvisionnements, les ravitaillements de nos unités qui sont en profondeur. Donc, ceux qui disent ça, ils ne savent pas lire les textes qui régissent l'état des sièges. L'état des sièges n'a pas dit que le gouverneur vient uniquement pour les opérations. Il est venu aussi, comme tout autre gouverneur, pour s'occuper de l'administration et du développement de la province.
Et lui, en tant que le patron des opérations militaires au Nord Kivu, à quand d'échecs ou des manques de réussite de ses opérations, c'est lui qui est responsable numéro un.
La responsabilité est partagée. Il est responsable parce qu'il est commandant des opérations, mais il fait tout pour qu'il n'y ait pas échec.
Pourtant, des voix s'élèvent pour exiger la levée de l'état de siège, par là d'un échec des objectifs assignés à ses animateurs. Quelle est votre réaction?
Il y a plusieurs missions qui sont arrivées pour évaluer l'état de siège. Plusieurs. Ils ont constaté que le travail se fait. Le jour où le commandant suprême décide de mettre fin à l'état de siège, le même jour, le gouverneur, ses collaborateurs font leurs valises et ils rentrent à Kinshasa. Et aussi, ceux qui demandent ça, est-ce qu'ils se soucient du bien de la population? Ou ce sont des gens qui ont des centres d'intérêt ailleurs?
Général Sylvain Ekenge, merci.
C'était l'invité de la rédaction, le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.